Cube Radio. Yasmine Abdel-Fadel. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Jeudi 18 août, bonjour et bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bon, il fait pas très beau dehors, il fait gris, il pleut. Mais dès demain, le vendredi et pour toute la fin de semaine, c'est le gros soleil et les températures estivales qui vont être de retour. On est donc un petit peu heureux de sacrifier notre jeudi pour assurer notre vendredi, notre samedi et notre dimanche. Me semble que c'est un investissement qui est payant. Données du recensement sur l'état du français au pays et au Québec, eh bien, le constat est assez clair. Il y a un déclin du français qui est noté un peu partout et sur tous les fronts. Au Canada, ben, les voyants sont au rouge dans presque toutes les provinces, à part le Yukon, je sais pas pourquoi, où la proportion des francophones et même des personnes parlant les deux langues officielles diminue. Et au Québec, ben, le français chute sur plusieurs fronts depuis le dernier recensement de 2016. On observe un recul du nombre de personnes dont le français est la langue maternelle de 77,1 à 74,8. Sur le front de la première langue officielle parlée, de 83,7 à 82,2. Et de la langue prédominante à la maison, et là on parle de 79 à 77,5. C'est préoccupant pour l'avenir du français, pas juste au Québec, mais au Canada. Et c'est de moins en moins un pays bilingue. On voit que c'est les Québécois qui sont de plus en plus bilingues, qui parlent de plus en plus l'anglais, dans une proportion de 59%. Mais au Canada, on ne parle pas de plus en plus français. Ça, il faut le dire, c'est de plus en plus unilingue anglophone. Et malgré ces constats, on est quand même loin de la louisianisation du Québec que nous disait le premier ministre François Legault. C'était important de le noter, mais on peut s'en préoccuper, on peut agir pour freiner le déclin de notre langue au pays et d'être plus inclusif dans cette bataille que l'on devra tous mener au courant des prochaines années. Sinon, ben la Caisse de dépôt et de placement du Québec a dévoilé hier ses résultats mi-annuels. Et évidemment, on est loin des performances à laquelle la Caisse nous a habitués depuis quelques années. Donc, à la suite de la sévère correction des marchés financiers des derniers mois, c'est une contre-performance qu'enregistre la Caisse avec la perte de près de 34 milliards de dollars et un recul de 7,9%. On veut se consoler aujourd'hui? On va se consoler. C'est comme ça que s'est consolé les gestionnaires, que se sont consolés les gestionnaires de la Caisse de dépôt et de placement hier pour dire que c'est toujours mieux que le portefeuille de référence de la Caisse qui, lui, enregistre un recul de 10,5%. Nous, c'est juste un recul de 7,9%. Cette mise au point de Charles Lemond, qui est président de la Caisse de dépôt et de placement, ben, nous a finalement appris ce qu'on attendait de savoir, ce qui veut dire l'investissement de 200 millions de dollars dans le navet de la crypto-monnaie Celsius. Eh ben, ils vont le radier, cet investissement-là. Il n'y a plus rien à aller chercher. On était plusieurs à se poser la question, qu'est-ce qui va arriver dans ce dossier qui a défrayé les manchettes durant tout l'été? On revient en politique, on aime ça, le festival des candidats qui mettent leur chef et leur parti dans l'embarras se poursuit. Mesdames et messieurs, on a encore des candidats qui défrayent les manchettes parce que c'est ce qu'ils disent, c'est un petit peu gênant. Un petit peu gênant de les lire, de les voir aller, un petit peu gênant pour leur chef, pour leur parti. Eh bien, c'est au tour du Dr. Roy Ypen. C'est un candidat du parti d'Éric Duhaime, Parti conservateur du Québec. Ben, lui, il attire l'attention pour les mauvaises raisons. Ben, imaginez que le candidat pense que le gouvernement n'a pas d'affaire à empêcher la discrimination envers les personnes gays provenant des communautés culturelles. Puis là, tu lis ça, puis tu dis « pardon, j'ai du mal lire ». Tu relis. Non, lui, il pense que le gouvernement ne devrait pas interdire la discrimination des personnes gays et des communautés culturelles. Lui-même, là, le gars, il est indien puis il est gay. Oui, vous avez entendu. Rewind, play. Il est indien et il est gay. Mais il juge qu'on devrait tout simplement pas avoir de loi interdisant à un commerçant de servir les gays et les minorités. Puis évidemment, il défend ça parce que lui, il a des convictions libertariennes. Les convictions libertariennes me semblent... c'est très stretché pour justifier qu'on peut se permettre de discriminer les gays et les communautés culturelles. Bref, mon petit doigt me dit que c'est pas la dernière fois dont on va entendre parler de ce candidat conservateur. J'ai l'impression qu'il va être abonné à nos bulletins de nouvelles. Éric Duhaime va encore une fois devoir passer son temps à se dissocier des propos de son candidat. J'ai même l'impression que c'est de ses candidats colorés, et je les appelle colorés pour être poli. Sinon, eh bien, la rentrée scolaire est à nos portes. De plus en plus d'experts et d'intervenants s'inquiètent de la qualité de l'air dans nos écoles, d'autant plus que cette rentrée se fera sous la menace d'une 8e vague de la COVID. Eh bien, le ministre Roberge et le gouvernement, ils veulent se faire rassurants. Ils disent que plusieurs travaux ont été faits dans nos écoles au courant de la dernière année, notamment l'installation de lecteurs de CO2, que ça va bien aller, qu'il y ait de la ventilation, puis que ça, on devrait être correct. Là, tu sais, ils nous disent ça depuis 2 ans et demi, qu'on devrait être correct. Mais les directions d'école, elles déplorent que la solution repose encore en bonne partie sur l'ouverture des fenêtres. Et ça, même en hiver, à moins 20 degrés, l'ouverture d'une petite fenêtre, ça va faire l'affaire. Parole de Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Plusieurs experts, par contre, s'entendent pour dire qu'il est important d'avoir de la ventilation mécanique, qu'on ne peut pas juste se fier sur les fenêtres, et même avoir des purificateurs d'air dans les classes, comme ça s'est fait un peu partout au pays, sauf ici. Ben, c'est une idée que ne semble pas partager la Direction nationale de la santé publique, malgré le fait que la rentrée se fera sans masque. Et ben, dans le rayon des bonnes nouvelles pour bien du monde, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Zellers renaît de ses cendres, et c'est l'abbé qui relance la marque après 10 ans de fermeture des magasins du Québec. Moi, je m'en rappelle, j'y allais avec ma mère quand j'étais jeune. Et on va donc revoir les espaces Zellers dès 2023 dans différentes labées. Il y en a déjà un aux Galeries d'Anjou. Et à ce qui paraît, ça attire pas mal de nostalgiques de la bannière.
Ex-conseillère politique. Et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, un plaisir de te retrouver.
Bonjour Yasmine.
Alors, on se retrouve, mais on n'a pas que des bonnes nouvelles. J'espère que tu as été enchanté par mon idée de ma nouvelle sur Zellers, mais il y a quand même le déclin du français, je suis pas mal sûre, qui te préoccupe plus que le Zellers.
Ah oui, grandement. Et ben, t'en as parlé un peu en introduction d'émission, hein. Je veux pas non plus, parce qu'il y a beaucoup de statistiques de Statistique Canada, on veut pas inonder les auditeurs, là, mais certaines que je trouve plus intéressantes que d'autres, hein, pour la première langue officielle parlée à la maison, parce que évidemment il y a les statistiques nationales, hein, du Québec en général, mais aussi si on regarde dans les régions plus particulièrement, donc à Laval, -3%, sur l'île de Montréal, -2.4%, en Outaouais, -2.4%, et tout ça en 5 ans, hein, donc -3% en 5 ans, c'est énorme. Hein, la démographie, c'est quelque chose normalement qui change tranquillement. 3%, c'est énorme. Et tu sais, on sait Montréal, Laval, Outaouais, c'est ces régions-là où l'anglicisation puis la perte du français nous préoccupe le plus, c'est certain. Donc, c'est vraiment ces statistiques-là qui doivent nous attirer notre attention. Ça, j'en suis certain. Là.
Oui, ben évidemment les chiffres sont préoccupants là. Il y a pas de manière de regarder ça sous un regard disons optimiste là. Ça, c'est inquiétant quand on voit 3 points de pourcentage à Laval pour la première langue parlée, parce que si c'était la langue maternelle, ben on se dit ben ça veut pas nécessairement dire que les allophones n'utilisent pas le français, n'ont pas fait un transfert vers le français, mais là on parle de la première langue officielle parlée, ça commence à être sérieusement inquiétant.
Ouais, exactement. Tu le dis très bien, parce que c'est sûr, il y en a qui ont essayé de dire, et il y a quelque chose de vrai là-dedans, qu'il y a des populations allophones qui vont, par exemple, parler espagnol à la maison, par exemple, mais que dans l'espace public, ils vont parler français. Ça existe, bien sûr, mais ce qu'on voit, c'est que pendant que le français régresse, l'anglais, lui, progresse. Donc, vraiment, c'est cette dynamique-là qu'on observe. J'ai envie de dire, même, on a pas, je veux dire, la comparaison entre les deux, parce que dans le reste du Canada aussi, il y a beaucoup d'allophones, mais l'anglais reste prédominant partout au Canada, donc on n'a pas vraiment à s'installer. D'ailleurs, parlant du reste du Canada, en Ontario aussi, c'est assez inquiétant, hein? Donc, en 2016, donc 4,1% de la population ontarienne était francophone. En 2021, c'est 3,4%. Donc, c'est énorme en 5 ans. Ce qu'on remarque, c'est que le bilinguisme augmente au Québec, mais diminue au Canada. Donc, l'espèce de rêve d'un Canada bilingue d'un essayant à l'autre est faux. C'est le Québec qui devient de plus en plus bilingue. Le français au Canada, en 71, c'était 27,2%. En 2021, 21,4%, moins, grosso modo, moins 5%. C'est énorme en 50 ans. Donc, ce qu'on observe, c'est cette tendance-là partout, partout, partout. Et Yasmine, je me pose la question, et je te la pose en même temps, c'est quoi l'horizon du français au Québec et au Canada? On voit la tendance depuis 50 ans, depuis même plus que 50 ans, mais ça fait 50 ans que Statistique Canada prend ces données-là. Quand est-ce que cette tendance-là va arrêter? Et j'ai envie d'ajouter, et plus ça va diminuer, hein, plus la proportion de francophones va diminuer dans le Canada, moins ça va être attirant de parler français, parce qu'il y a de moins en moins de gains à parler français.
Mais je partage ton constat parfaitement, David. En fait, moi, ce que je me dis quand je regarde ces chiffres-là et que je m'en inquiète, c'est que des lois, par exemple, comme 96, ne vont pas permettre de renverser cette vapeur-là, ne vont pas permettre de jouer sur ce déclin-là pour en assurer à tout le moins que ça arrête ce déclin et cette accélération. Et c'est là où je me dis qu'il faut qu'on arrête de se déchirer sur les questions de la langue puis qu'on fasse front commun, qu'on serre les coudes tous ensemble, peu importe notre allégeance politique puis ce qu'on pense, parce que le plus important là-dedans, c'est pas est-ce que moi j'ai raison ou toi t'as raison, c'est que la finalité de la chose, c'est que la langue française doit être protégée et il faut arrêter d'en faire un sujet divisif puis d'en faire un sujet de priorité nationale pour tous les partis politiques, pour tous les Québécois, pour tous les francophones et les allophones qui ont adopté le français comme langue la plus souvent parlée. C'est la seule manière de faire face au déclin du français.
T'as raison que la loi 96 va avoir comme effet chez plusieurs Québécois que le dossier est pris en charge d'une manière ou d'une autre. Alors que, ben, même si moi j'étais pour la loi 96, je suis pas fou, là. C'est-à-dire, on sait très bien que ça va avoir un effet assez marginal sur la langue parlée à la maison ou la langue parlée sur le lieu de travail. Là, je pense que ça va. Il y aura un certain effet, mais assez marginal. Donc, t'as entièrement raison. Mais en même temps, Yasmine, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faudrait avoir des mesures encore plus musclées que la loi 96, c'est ça que tu es en train de me dire?
Il faut avoir des mesures qui soient consensuelles de manière à ce que c'est pas juste écrit dans une loi déposée parmi toutes les lois que l'on a, c'est qu'on le pratique, on pratique toutes les mesures nécessaires pour assurer le rayonnement, la vitalité du français. Je veux pas que ceux qui se sentent mis de côté avec 96 jugent qu'ils ne sont pas partie prenante dans la lutte au déclin du français. Je veux quelque chose d'inclusif parce que c'est pas une sonnette d'alarme juste pour les francophones, c'est une sonnette d'alarme pour toute la nation québécoise. Puis la nation québécoise, il faut additionner et non soustraire les bras, les jambes, les cerveaux et les langues pour pouvoir assurer la vitalité du Québec. Plus on sera moins à vouloir assurer la vitalité du Québec, plus le déclin va s'accélérer.
T'as sûrement raison, mais peut-être que je suis cynique, Yasmine, mais j'ai l'impression que l'espèce de consensus, l'espèce de « on veut pas cliver », j'ai l'impression qu'en 2022, ça n'existe pas. Est-ce que ça a même déjà existé? Tu sais, des mesures consensuelles pour le français, j'ai de la misère à voir ça arriver à l'horizon, là. C'est-à-dire que tout enjeu est susceptible de cliver. Avec l'époque des réseaux sociaux, on se braque très rapidement. Donc, dans un monde idéal, je serais d'accord avec toi, Yasmine, mais je vois pas ça arriver. On se clive très, très rapidement. Et je voulais parler d'un autre élément sur le français, parce qu'on essaie des fois de se convaincre en disant il y a quand même 93,7% des Québécois qui se disent capables d'avoir une conversation en français. Hein, ce chiffre-là, d'ailleurs, a baissé depuis 2021, mais 93,7%, on pourrait se dire, c'est pas si mauvais que ça. C'est quand même au Québec plus de 500 000 personnes qui sont pas capables de soutenir une conversation en français, et principalement dans la grande région de Montréal. 500 000 personnes dans la grande région de Montréal, on s'entendra là-dessus, c'est quand même pas banal. Ensuite de ça, on doit se poser la question, est-ce que le français, pour nous, c'est juste un outil de communication ou bien c'est un écosystème linguistique? Comme tu viens de le dire un peu, est-ce que le français, on l'utilise au marché, pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait nos recherches, ou c'est juste on l'utilise dans notre foyer, avec nos amis, tout ça, ou c'est une vraie langue, ou est-ce qu'on fait des choses sérieuses avec ça? Ben, poser la question, c'est un peu y répondre, j'ai l'impression. On veut que ce soit un écosystème linguistique, et ça, on a beaucoup discuté à faire. Puis il y a un chercheur, Marc Chevrier, qui parlait que le Québec, en fait, au Québec, le français est de plus en plus une langue infantile, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans la vie privée, mais de moins en moins au travail, dans la recherche. Évidemment, l'anglais, on le sait bien, là, dans une certaine mesure, on peut pas s'en passer, mais le français doit quand même être la chose sur laquelle la langue autour de laquelle on gravite, là.
Bon, ben ça, c'est évidemment que le français, c'est plus que juste une simple langue, un moyen de communiquer. C'est aussi une culture qui vient avec, une identité qui vient avec. Et ça, une identité, on peut pas la forcer dans la gorge de quelqu'un à coup de loi. Ça, il faut la faire aimer. Ça, il faut faire adhérer. Il faut de la volonté pour pouvoir en faire son identité. Puis c'est ça où moi, je veux en venir. Parce qu'avant de dire, on va arrêter d'infantiliser la langue française pour que ça devienne une langue que l'on pratique au primaire et au secondaire et qu'on oublie après, ben il faut que l'on soit personnellement et individuellement des volontaires pour assurer sa pérennité, pas juste à coup de loi, puis à coup de vous versus nous. Vous êtes une menace, nous, on est persécutés. Il faut additionner, là. Arrêtons de soustraire, on soustrait des soldats de la langue française à chaque fois que l'on parle du nous et de vous et de la langue française.
Oui, mais à nouveau, Yasmine, j'ai l'impression qu'il y a un peu d'angélisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on vit dans une société tellement polarisée et tellement polarisante. Mm-hmm. Et force est de constater que, je parle pas des immigrants ici, mais je parle du phénomène de l'immigration. Je pense qu'il faut quand même distinguer les deux. C'est-à-dire qu'un immigrant qui arrive ici, il subit les forces du marché, en quelque sorte. Moi, un immigrant qui a tendance à se replier un peu sur l'anglicisation, à aller vers des communautés davantage anglophones, je ne lui en veux pas personnellement, parce qu'il y a de fortes chances que si je faisais pareil... j'arrivais au Québec à la même époque, je ferais probablement pareil, parce que la réalité étant ce qu'elle est, il y a des forces du marché, des forces sociales. Et ça, faut être bien conscient de ça. Et puis, la question de « il faut faire aimer le français pour que ça devienne, fasse partie de l'identité », bien sûr, mais en même temps, les gens apprennent pas une langue parce qu'ils l'aiment, ils l'apprennent, et là, c'est peut-être triste de le dire, mais ils l'apprennent parce qu'ils sont obligés, parce qu'il y a des forces du marché qui font en sorte que ça l'est, parce que c'est
plus
attirant,
leurs enfants,
parce que c'est plus utile.
Leurs enfants vont aller dans des écoles francophones à cause de la loi 101. En fait, grâce à la loi 101, ils vont aller dans des écoles francophones, puis ils vont parler français, puis les deuxième, troisième, quatrième génération, on espère que ça va être pareil pour eux. Donc, moi, je pense qu'il y a aucun immigrant qui arrive au Québec puis qui dit, moi, je vais lutter contre ma francisation. Voilà, dès que vous me parlez en français, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, puis je chante dans ma tête pour ne pas vous entendre. Je pense que c'est la manière avec laquelle on explique l'importance du français qu'on va convaincre, pas besoin juste de convaincre, mais qu'on va ouvrir nos cœurs et qu'on va ouvrir ces cœurs-là pour le français puis l'identité francophone du Québec. Peut-être c'est de l'angélisme, peut-être que c'est du jovialisme, mais quand je vois les chiffres d'aujourd'hui, je me dis que les discours divisifs ne donnent pas les résultats escomptés.
Oui, puis j'ai envie de dire, il doit y avoir beaucoup d'immigrants qui arrivent aujourd'hui qui sont un peu mêlés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, et ça, faut pas oublier, il y a beaucoup d'unilingues francophones qui arrivent au Québec, ou du moins qui ont, par exemple, je sais pas, ils parlent français et arabe, donc oui, ils sont bilingues, mais du point de vue des langues officielles, ils vont être unilingues francophones. Ils arrivent au Québec, ils s'installent à Montréal et ils se rendent compte que l'immense majorité des emplois, du moins un grand nombre d'emplois, demandent la maîtrise de l'anglais. Donc là, ils se disent, j'arrive au Québec, en même temps, j'arrive au Canada, mais au Québec, on reste, c'est une province française, francophone, mais en même temps, j'ai comme pas le choix d'être bilingue pour travailler, c'est pas ça qu'on m'avait promis. Donc, je me mets à la place d'un immigrant, puis je conçois tout à fait qu'il est vraiment mélangé. Mais, et ça, il y aurait vraiment un enjeu à discuter là-dessus. Les immigrants qui sont un peu laissés pour compte aussi dans cette anglicisation-là, parce que justement, on les sélectionne du fait qu'ils parlent français, puis c'est pas assuré qu'ils parlent anglais. Hein. Nous autres, on s'imagine toujours que le bilinguisme, c'est français-anglais. J'ai justement des amis récemment qui revenaient d'Espagne, et le bilinguisme, c'était l'espagnol et le français. Ils se faisaient beaucoup plus souvent servir en français qu'en anglais, mais nous, on a une vision vraiment bilingue anglais-français, mais c'est pas ça partout.
David, je suis sûre que c'est pas la dernière fois dont on va parler du français, de la vitalité du français. Je te donne rendez-vous demain. Je suis sûre qu'on va continuer à en parler, notamment sur la proposition des jeunes libéraux et de l'enseignement du français au cégep. Bonne journée et à demain.
Ex-conseillère politique. Et ça, ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel. La chronique argent.
Une vision des finances pas comme les autres.
Les données des rendements ou de la contre-performance de la Caisse de dépôt et de placement ont été rendues publiques hier, et c'est plus de 33 milliards de dollars de pertes au premier semestre. Un recul de plus de 7 %. Olivier, ils veulent nous présenter ça comme une bonne nouvelle. Est-ce une bonne nouvelle?
Ben, tu connais les grandes organisations. On a souvent un beau communiqué de presse. Lors des premiers paragraphes, on dit que tout va bien. Puis lorsqu'on creuse un peu puis qu'on s'en va dans les résultats financiers, ben c'est là qu'on se rend compte que ça va beaucoup moins bien. Et la grande question hier, Yasmine, c'était, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour les pensions? Parce que tu sais qu'à la Caisse des dépôts et de placement, on gère les pensions, la caisse de retraite de 43 déposants. Et la réponse du patron, Charles Lémont, ça a été non. Alors, faut pas s'inquiéter, les pensions sont au chaud. Et on doit lui donner raison quand même, Yasmine. Pourquoi? Ben pour plusieurs raisons. Alors, c'est sûr et certain que le chiffre va faire peur dès le départ. Tu l'as dit, on parle d'un recul quand même de pertes de 33 milliards de dollars. Des pertes sur papier, encore le faut
oui,
dire.
Oui, c'est ça.
Pas des pertes enregistrées, là. Parce qu'on sait qu'il y a de très bons gestionnaires à la Caisse des dépôts et de placement. On ne va pas vendre lorsque les titres sont bas. On va vendre lorsque les titres sont hauts. On va attendre. Sur papier, donc, ce sont des pertes de 33 milliards de dollars. C'est sûr que c'est un chiffre qui fait peur. Et il faut reculer, c'est ça l'affaire, il faut reculer à la crise financière de 2008 pour voir des pertes aussi importantes et un rendement aussi peu reluisant à la Caisse des dépôts et de placement. Tu l'as dit, un rendement de moins 7,9%. Mais il y a quand même des différences qui sont importantes si on compare avec 2008. Et je lisais ce matin dans différents médias montréalais, on faisait aussi un parallèle avec cette époque. Tu te rappelles, on a parlé beaucoup du papier commercial.
Ah oui. Hein,
on avait le fameux papier commercial qu'on avait acheté. Henri-Paul Rousseau, hein, ça avait été une de ses grandes marottes. Et à l'époque, en 2008, lorsqu'on avait fait la présentation des résultats, on était très, très nerveux. On ne savait pas, évidemment, quelle explication donner aux journalistes. Hier, c'était complètement différent. Charles Lémont était d'un calme olympien, répondu à toutes les questions très, très, très longtemps. Il faut dire qu'en 2008, la perte avait été de 40 milliards de dollars, mais c'était sur un actif beaucoup plus petit à l'époque, Yasmine. Là, on parle d'un actif de 400 milliards de dollars et d'une perte de 33 milliards de dollars. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. La crise financière, les marchés avaient descendu beaucoup, beaucoup plus. On était allé aux alentours de 7 000, 8 000 points. Et là, on est en haut des 30 000 points. Alors, tu sais, faut vraiment faire quand même des parallèles. Et l'autre aspect également, même s'il reste beaucoup de volatilité sur les marchés, c'est qu'on sait que sur les bourses mondiales, ça a descendu depuis la guerre en Ukraine. Au mois de mars, par exemple, jusqu'au mois de juin. Le mois de juin a été vraiment, vraiment terrible. Alors, c'est sûr que ça a un impact sur les résultats de la Caisse des dépôts. Mais le mois de juillet, on nous a dit hier, Yasmine, que ça a été l'un des meilleurs des deux dernières années. Donc, des 33 milliards de dollars de pertes, donc sur papier, pour les 6 premiers mois, on a déjà récupéré la moitié de cela.
Ben, ça colle. C'est assez intéressant dans le sens où j'imagine que les banques centrales qui ont augmenté leur taux directeur, qui ont été bien reçues de la part des différents indices boursiers, que cette correction avait atteint son fond et que maintenant on reprend. Mais est-ce que ça va être assez pour reprendre la totalité des pertes enregistrées pour le premier semestre d'ici la fin de l'année?
Très bonne question. Très bonne question que j'ai d'ailleurs moi-même posée à Charles Lemond. J'ai dit, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous le dire. C'est sûr que ça va prendre, on pourrait dire, une combinaison de facteurs pour qu'on revienne en territoire positif parce que à moins 7,9%, c'est quand même important comme recul. Ça, ça veut dire que faudrait que les marchés boursiers surperforme sur plusieurs mois, parce que dans leurs autres, je te dirais, leurs autres portefeuilles, les infrastructures généralement, donc ça va bien, les immeubles, ça va bien. Le marché obligataire, ça va pas tellement bien. Tu sais qu'il y a une hausse de taux d'intérêt. Lorsqu'on hausse le taux d'intérêt, il y a une émission de nouvelles obligations qui deviennent plus attrayantes. Donc, les anciennes obligations, le prix diminue. Alors, c'est pour ça que le marché obligataire et le marché boursier, ça a été extrêmement difficile. Et d'ailleurs, les deux ont connu une correction simultanée. C'était la première fois depuis 1969, nous ont-ils dit. Alors, c'est sûr et certain que le contexte est vraiment difficile, Yasmine. Là-dessus, il y a l'inflation, évidemment. Il y a la guerre en Ukraine. Depuis qu'il est arrivé, M. Lemond, il y a eu aussi la pandémie, parce qu'il est arrivé, je pense, en 2019. Donc, il remplaçait Michael Sabia. Alors, il y a eu plusieurs gros nuages. Et ils ont eu à contourner tout ça. Et ce qu'il faut rassurer, ce qui rassure également, c'est qu'ils font pas, leur performance est pas nécessairement moins bonne que les comparables. Les caisses de retraite au Canada, ils ont tous dévoilé leurs résultats et on parle de recul, en fait, de rendement négatif, moins 14, moins 15. Alors ça, c'est pire que la Caisse des dépôts et de placement. C'est sûr que la Caisse fait moins bien que Teachers. Souvent, tu sais, on essaie de trouver des comparables. Teacher, c'est la caisse de retraite des enseignants
de l'Ontario, qui est très importante, voilà. Une des plus grandes caisses de retraite au pays.
C'est ça. Et eux, Yasmine, imagine-toi qu'ils ont eu un rendement positif de 1,2%. On a posé la question à M. Lemond, mais Teachers, ils ont moins d'actions. Ils ont une pondération de, je pense, de 9 à 10% en actions, alors qu'à la Caisse des dépôts et de placement, c'est plutôt de 25 à 30%. C'est sûr que les grandes institutions qui sont à la bourse et qui transigent à la bourse, ça a été difficile là, pour les premiers mois de l'année. Et aussi, juste à dire, il a répondu sur les questions concernant Celsius Networks. Oui. Je t'en parlais hier. Tu sais, cette banque de crypto-monnaie qui s'est complètement écrapoutie, qui est en faillite. La Caisse des dépôts qui avait mis 200 milliards de dollars, ben là, on a appris un petit peu plus là-dessus.
200 millions. La Caisse
de 200 millions, pardon. Oui, puisqu'on était d'un milliard depuis le début, on vient à perdre le fil. Et donc, s'est excusé en quelque sorte, a fait son mea culpa, a dit qu'ils sont arrivés trop rapidement, ils ont acheté l'entreprise trop rapidement et qu'ils ont radié finalement ce 200 millions de dollars-là.
Alors, ça, on ne le reverra plus.
Un write-off, exactement. Donc, on le radie. Et on ne reverra plus, je te dirais, de sitôt les crypto-monnaies à la Caisse des dépôts et de placement. Sincèrement, je pense qu'on a eu notre leçon. C'est ce qu'il nous a affirmé. Et aussi, ils sont en train de regarder les options légales. Donc, ça pourrait se retrouver devant les tribunaux à suivre. Mais j'ai l'impression que c'est une aventure malheureuse et on ne va pas y retourner.
Olivier, j'aimerais t'entendre sur... Est-ce que quelqu'un a posé la question à Charles Lemond hier? Ça aurait été quoi? Ils imaginent que ça aurait été quoi le rendement de la Caisse de dépôt s'il n'était pas sorti du pétrole aussitôt. On sait que le pétrole, évidemment, le baril de pétrole est monté. Est-ce que ça aurait pu mieux contrôler les pertes et la contre-performance si on était resté dans le pétrole?
Ben, oui, la question lui a été posée parce qu'il y a eu des articles dernièrement, notamment donc dans la presse. C'est que, on pourrait dire, une des grandes orientations de la Caisse des dépôts actuellement, c'est d'investir dans les énergies renouvelables et sortir des énergies fossiles, notamment le pétrole. Ça fait plusieurs années qu'il l'a dit. Et on lui a posé la question, est-ce que vous avez regretté de vendre les titres pétroliers juste avant la hausse et vous auriez fait finalement beaucoup plus d'argent? Il dit non, on ne regrette absolument rien parce que c'était notre orientation, c'est la bonne chose à faire pour un investisseur institutionnel comme nous. Donc, on veut donner le bon exemple. C'est sûr et certain que s'ils avaient encore leur titre pétrolier, puis ils les avaient vendus, par exemple, je sais pas, moi, 3-4 mois plus tard, après la guerre en Ukraine, où on a vu une hausse, la caisse aurait fait plus d'argent. Mais il dit quand même, on a fait beaucoup d'argent à la Caisse des dépôts avec tous nos titres pétroliers qu'on a vendus. Et franchement, du côté de M. Hémond, j'ai l'impression que la page est tournée là, sur les énergies fossiles.
Très intéressant. On va attendre les résultats de fin d'année avant de pouvoir avoir un juste portrait de la situation sur notre bas de laine. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Olivier.
Chez Zaleuse, nous savons que vous travaillez fort. Et nous travaillons fort pour vous en donner plus pour votre argent. Plus d'économies, plus de primes, plus d'argent en retour. Zaleuse ou le prix le plus bas fait loi tous les jours.
Vous travaillez fort pour votre argent. Alors on va vous en donner plus.
Ça revient? Ça revient.
Ça revient, incroyable.
Zaleuse, je reviens.
Zaleuse, et j'ai l'impression, mon petit doigt m'a dit que t'aimais ça des fois aller chez Zaleuse.
J'aimais ça aller chez Zaleuse. Il y avait comme des bougies parfumées, puis il y avait comme des affaires de salle de bain. J'aimais ça aller chercher les push-push de salle de bain dans les rayons de Zaleuse. Je plaide coupable.
Puis il y en a plus, malheureusement. Et je te dirais, Yasmine, que tu n'es pas seule. Des nostalgiques de Zaleuse, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a ma collègue Hélène Schaff qui est allée aux Galeries d'Anjou hier. Et aux Galeries d'Anjou, imagine-toi, toi qui es nostalgique des Zaleuse, il y a déjà actuellement un espace Zaleuse, si tu veux y aller. Alors, il y a peut-être des bougies sans bon que tu pourras aller chercher. Parce que c'est ça qu'on annonce, grosso modo. Puis là, on a entendu le jingle. C'était là où le bas prix, ou là où le plus... je l'avais marqué, donc le slogan.
Prix le plus bas fait loi.
Le plus bas fait loi. Voilà, exactement. Alors ça, c'était leur slogan avec le jingle qu'on a entendu. Donc, on jouait beaucoup là-dessus. Des items qui sont pas chers. Tu te rappelles aussi, il y avait le fameux restaurant. Il y avait toujours un restaurant.
La pizza était pas chère.
Était pas cher, exactement. Donc, ça pourrait être une façon de contrer l'inflation. Il y avait donc la mascotte. Il y avait même des petits manèges dans les Zaleuse. Donc, vraiment, c'était comme un écosystème, un univers. Et il y a des gens qui aimaient ça énormément y aller. Alors, ça va venir en partie. On ne verra pas les gros magasins, je tiens à te le dire, qui étaient sur plusieurs mètres carrés. Ça, on ne reverra pas ça. Ça appartient à l'abbé Zaleuse, qui avait acheté l'entreprise, je crois que c'était en 1978. Ils avaient vendu après ça donc les baux en 2011 parce qu'il y avait une grosse concurrence. Évidemment, Zaleuse, c'était beaucoup moins profitable avec l'arrivée, par exemple, de Walmart. Mais on ne reverra pas les gros magasins. Ce qu'on va revoir, c'est à peu près ce qu'on a implanté aux Galeries d'Anjou. Donc, une espèce de zone, un espace Zaleuse à l'intérieur des magasins Labbé. Et il y aura également, pour ceux qui ne veulent pas se rendre dans les magasins Labbé, du commerce en ligne. Il y aura un site Internet Zaleuse où on pourra acheter des items. On imagine que ce sera des items qui seront moins chers, à peu près comme on avait auparavant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle pour les nostalgiques comme toi.
Alors, il y aura le coin cheap de l'abbé. Il va s'appeler l'espace Zaleuse.
L'espace Zaleuse, exactement. On se rappelle, là, c'était vraiment donc très, très populaire dans les années 80, les années 90. Hey, imagine-toi qu'il y avait 350 magasins à l'époque.
Ah, je m'en rappelle, il y en avait partout, puis après, la plupart se sont transformés en Target, jusqu'à ce que Exactement. Target, évidemment, morde la poussière, et maintenant, ça revient. On revient au classique.
Oui, puis Target, là, il faut le dire, c'est ça. Donc, l'abbé avait vendu les baux à Target, puis là, Target, tu as vu, ça a été un fiasco total, hein, parce que Target voulait s'implanter au Canada, ça n'a vraiment pas fonctionné. Alors, des Target, il n'y en a plus, là. Donc, les baux, là, ils existent encore. Donc, ça a été vendu à d'autres entreprises. Mais au moins, pour les nostalgiques des Zaleuse, il y aura un petit espace Zaleuse dans les magasins Labbé. Et ça sera implanté à partir de 2023.
Olivier, on voulait parler ce matin d'une usine dans du secteur des composants des véhicules électriques, mais on va se garder le sujet pour demain et garder à tous ceux qui nous écoutent en haleine. Je suis sûre qu'on est tous excités de connaître c'est quoi cette usine.
Oui, parce que ça sera la plus grande usine de composantes pour les véhicules électriques. Attention.
Mais là, on ne vend pas le punch, là. On va en parler demain, Olivier.
On aura ça demain. On aura ça demain.
À demain.
Salut.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
On a appris hier que l'équipe d'Alloprof va être de retour dès le 6 septembre pour aider les élèves du Québec à faire face aux défis qu'ils pourraient rencontrer dans le cadre de la rentrée scolaire. On sait que ça peut être anxiogène pour certains élèves et évidemment pour leurs parents. On a avec nous Annie Harvey, porte-parole d'Alloprof. Bonjour, Madame Harvey.
Bonjour.
Alors, quels sont ces défis que vous voyez de plus en plus émerger dans la vie estudiantine des écoliers?
Bien, si on parle des défis en général, c'est vraiment, nous, toujours en mathématiques, ça continue. Là, donc, on est là pour les épauler. Sinon, là, à sortie de l'année, on a l'anxiété, hein, le stress, la rentrée à l'école. Donc, on est là pour appuyer les parents pour qu'eux puissent donner un coup de main à leur enfant et faire en sorte que ça se passe comme sur des roulettes.
Et comment on explique ce stress et cette anxiété liée au retour à l'école?
Mais en fait, vous savez, que ce soit un événement qui est attendu, souhaité même, ou un événement qu'on voudrait repousser à demain ou après-demain ou jamais, en fait, l'anxiété, le stress, c'est quelque chose de normal que tout le monde vit à différents degrés. Donc, à l'approche d'une nouveauté, d'un changement de routine, ben là, ça sort à différents niveaux chez les individus, indépendamment du caractère de chacun. Et puis nous, ben, les parents, on doit les accompagner. Je dis nous parce que je suis parent moi-même.
Oui, oui.
Pour accompagner nos enfants là-dedans. Et Alloprof nous donne des super trucs. En voulez-vous des trucs, en fait?
Moi, j'en veux. Ma fille rentre à l'école pour la première fois dans à peu près 10 jours. Et je ne sais pas à quoi... une petite sensible, ma fille, il faut que je le dise. Là. J'ai peur qu'elle soit anxieuse puis bien stressée.
Ah ben, vous savez, la première des choses à faire, c'est de gérer nous en tant que parents, parce que souvent on voit plus loin que les enfants. Fait que des fois, c'est notre stress à nous qui est plus grand que celui des enfants. Là. Donc, en essayant de garder une attitude positive puis de pas déteindre sur eux, c'est déjà bon. Puis on peut évidemment poser des questions à notre enfant, savoir comment il se sent, hein, qu'est-ce que t'en penses, comment toi tu imagines ta première journée. Puis on l'écoute avec une oreille attentive et sans minimiser ce qu'il ressent, on n'est pas obligé hein, d'en rajouter une couche. On essaie là, justement d'y aller avec nos belles histoires. Par exemple, moi je me souviens aussi, j'étais anxieuse, mais ça finissait toujours bien. Après, j'avais plein d'amis. Puis on y va dans cette optique-là. Et justement, on peut se servir. C'est bien, tu vas rentrer à l'école justement à la maternelle ou tu t'en vas en première année, tu vas pouvoir te faire des nouveaux amis ou retrouver tes amis, dépendamment de la situation. Toi qui aimes tellement apprendre, hein, tu vas apprendre, chaque journée va être une nouvelle occasion. Tu aimes faire des bricolages, mais là, tu vas en faire, Donc, on y va sur ce qui pourrait intéresser l'enfant. Et puis, pourquoi pas lire des histoires au sujet de la rentrée des classes. Il y a plein de livres jeunesse, j'ai pas tout en tête précisément, mais il y a de belles collections, il y a plein de livres qui abordent le sujet. Donc, pourquoi pas lire avec l'enfant une petite histoire à ce propos-là, faire un calendrier de la rentrée. Là, on est le 18 août aujourd'hui, là, à quelques jours de la rentrée, avec des croix, puis bon, regarde, il reste 7 jours, 8 jours, et mettre en place une routine, parce que c'est sûr que la veille de la rentrée scolaire commençait à chambarder l'horaire, puis il dit, bon, ben, demain matin, on se réveille à 6h30, c'est un choc, hein? Donc, tranquillement, pas vite, on réajuste l'heure du dodo, l'heure du réveil, on essaie de prendre des repas des heures plus régulières, puis donc, pour que tout se fasse plus en souplesse.
C'est drôle parce que ça me fait rappeler, en fait, ça me rappelle que ma fille qui a 5 ans, là, qui rentre en maternelle, on parlait de l'école, on essayait d'aborder l'école et tout, puis elle me disait que elle a peur de pas avoir les réponses quand son enseignante va lui poser des questions. Puis là, je me dis, mais coudonc, pourquoi ce stress-là, pourquoi tu y penses, tu sais?
Il y a plusieurs enfants qui ont ce réflexe-là. Puis même en tant qu'adulte, des fois, dans une réunion, peu importe, on a toujours peur de ne pas avoir la réponse quand quelqu'un nous pose une question. Mais pour ce qui est des enfants, être à l'école, c'est normal de ne pas avoir la réponse. Sinon, si tous les élèves avaient la réponse, on n'irait pas à l'école. On n'aurait pas besoin de l'école. Donc, c'est pour ça que les questions, puis il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas rien du tout. Donc, on peut l'inciter à poser des questions, à surmonter justement cette gêne-là ou cette peur-là qui est là. Puis, ben justement, Alloprof, là, nous, on aime ça, les questions. Là. Quand on sera en première année au primaire, on répond aux questions des élèves en toute. On est tout le temps très heureux de recevoir leurs appels ou leurs chats ou même dans la zone d'entraide. Là, puis, il n'y a pas de. C'est pas de mauvaise question. Puis, il n'y a pas de questions qu'on dort, franchement. C'est tout le temps pertinent. Puis, ça amène les autres plus loin aussi.
Et rappelez-nous, Alloprof couvre jusqu'à quelle année en termes d'école?
En fait, on couvre primaire, secondaire, mais mon petit doigt me dit que certains élèves du cégep qui nous utilisaient au primaire et secondaire nous utilisent encore parfois parce qu'il y a certaines notions qui, quand on les utilise pas souvent, hein, finissent par se ramollir. On oublie un peu, donc ils viennent se rafraîchir la mémoire chez nous aussi. Puis les adultes, hein, les parents, nous utilisent beaucoup pour aider leurs enfants dans l'accompagnement de leurs devoirs.
Et alors, ce sont des profs qui, de l'autre côté du téléphone, de l'autre côté du chat, viennent en aide à des questions bien précises des élèves et des parents. Combien d'appels ou combien d'interactions recevez-vous par année habituellement?
L'an passé, voyez-vous, on a eu 560 000 élèves pour 60 millions d'accompagnements.
Wow.
Donc, un accompagnement, c'est un geste, un acte à l'élève. Oui, c'est énorme. Donc, si on fait un petit calcul rapide mathématique, là, on se rend compte que l'essayer, c'est l'adopter, parce que les élèves qui viennent sur le site ou qui appellent pour avoir accès à nos enseignants reviennent. C'est une bonne nouvelle.
Ben, je dois vous dire que quand j'étais au primaire puis que j'étais au secondaire, j'ai appelé Alloprof. Et j'ai toujours eu un excellent service.
Ben, ça fait plaisir à entendre. Ben, c'est ça, ça fait 25 ans qu'on existe quand même. C'est pas rien. Ben, on va commencer notre 26e année. Là. C'est tout honorable.
Et comment vous embauchez le personnel pour répondre à cette demande qui est, ma foi, très importante?
Tout à fait. On a 200 enseignants qui travaillent pour nous. Là. Et puis, en fait, c'est des candidatures soit spontanées, soit on fait des appels de recrutement. Là, mais généralement, c'est ça. C'est souvent des candidatures spontanées.
La pénurie de main-d'œuvre, parce que on voit que c'est la pénurie d'enseignants est sur toutes les lèvres. Les directions d'école en arrachent. Le ministre de l'Éducation en parle. Mais vous n'avez pas de misère à trouver des intervenants de votre côté?
Je suis pas ressources humaines, mais étrangement, non. mais il faut dire aussi que les enseignants nous disent souvent que de travailler chez nous après leur... Parce que souvent, ils vont travailler après leur charge de cours régulière. Là, ils viennent... C'est comme une récompense. C'est comme pour eux, là, c'est alors, avoir les jeunes, quand ils appellent spontanément pour avoir une réponse ou besoin d'explication, c'est parce qu'ils sont à cœur leur réussite scolaire. Puis c'est vraiment c'est dans une ambiance conviviale. Tout le monde est tellement content. Je sais pas, on est vraiment chanceux, comme on a une super ambiance et les profs hyper motivés.
Ben, c'est super ça, Madame Harvey. C'était un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Alloprof. Bonne rentrée et bonne année scolaire pour vous, pour les enseignants et pour les élèves que vous allez servir.
Merci à vos auditeurs et à votre fille aussi.
Merci. Au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre. Yasmine Abdel-Fadel.
On a vu le ministre de l'Éducation qui commence de plus en plus à nous parler, évidemment, de la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, c'est aussi une source de stress pour les directions d'école qui ne savent pas s'ils vont avoir le personnel et le personnel qualifié pour enseigner dans les classes. Et j'ai le plaisir d'en parler avec Sophie Villeneuve, chroniqueuse politique. Bonjour Sophie.
Bonjour Yasmine.
Est-ce que tes enfants vont avoir des enseignants ou est-ce qu'ils vont avoir des adultes dans la classe pour les surveiller? Parce que la question se pose.
Écoute, je suis très rassurée en ce qui me concerne. Les enfants vont dans une toute petite école. On est à Chicoutimi, on est à un endroit où je pense il y a une certaine forme de stabilité. On sait déjà quels enseignants auront les enfants. Puis ils sont là depuis quelques années. Mais c'est pas le cas partout au Québec. On sait que la pénurie de main-d'œuvre frappe également le secteur de l'éducation depuis quelques années. Puis c'est spécialement complexe depuis la pandémie. On le sait, là, on l'a vu quand un enseignant doit sortir en quarantaine, doit s'isoler parce qu'il a des symptômes de la COVID. C'est problématique, mais pas que ça. Il y a aussi le fait que la profession enseignante attire moins depuis des années. On va se le dire, Yasmine, c'est une profession qui n'a pas été tellement valorisée.
Non.
Et l'enseignement, moi, je suis digne fille d'une enseignante. Ma mère a été professeure au primaire pendant 35 ans. Elle était une passionnée, une réelle passionnée, mais un peu comme certaines autres professions à vocation féminine, qui sont majoritairement féminines. On a souvent parlé de la vocation des enseignants, on a souvent parlé de la vocation des infirmières. Est-ce que tout ça a jamais été pour justifier un moins bon traitement ou un traitement qui n'était pas équivalent? Bref, cette profession-là n'a non seulement pas été valorisée, mais le salaire n'a peut-être pas suivi ce qui aurait dû suivre au fil des années. Puis, il y a aussi le fait qu'il s'agit d'une profession pour laquelle il n'y a pas d'ordre professionnel à proprement parler. Tu sais, les syndicats pour l'enseignement, comme dans certains autres secteurs d'activité, sont très forts. Mais un ordre professionnel, ça vise à encadrer une profession. Ça vise aussi à maintenir des niveaux, des standards. Ça fait en sorte qu'on doit former aussi les professionnels qui sont temps réel au fur et à mesure de leur carrière. Et ça, c'est pas quelque chose qui existe. C'est pas une exigence de la profession. Puis, ben, c'est pas toi, mais moi, ça me dérange.
Ben moi, ça me dérange. Bien sûr que ça me dérange. Depuis plusieurs années que je me dis qu'il faudrait qu'on ait un ordre professionnel. C'est une profession. On forme quand même la génération de demain. Et il n'y a pas d'un ordre professionnel comme toutes les autres professions. Ayons comme mission, là, la mission d'un ordre professionnel, c'est écrit dans toutes les lois, c'est la protection du public. Alors, si on veut la protection de l'élève, ben la première des choses à avoir, c'est un ordre professionnel qui a pour objectif de réglementer la profession d'enseignant. C'est une profession.
Ben, c'est une profession, puis tu le dis, on forme la prochaine génération, et puis on voit le niveau ne va pas nécessairement en augmentant. On n'est pas dans une culture de l'excellence au niveau de l'enseignement. Puis là, ben, on voit arriver dans des classes des professionnels qui, tu sais, à qui je n'enlève rien, quelqu'un qui a étudié en histoire et qui a un talent naturel au niveau de la pédagogie peut possiblement se retrouver dans une classe et être un très bon professeur. Mais ne devrait-il pas y avoir des normes minimales au niveau de la pédagogie avant de se retrouver devant 30 enfants qui vont retenir ce qu'on va leur expliquer?
Qui vont retenir ce qu'on va leur expliquer, qui voient l'enseignant comme une figure d'autorité, que tout ce qu'il dit est parole d'évangile ou presque. Moi, personnellement, je pense que c'est important que d'avoir cette réglementation autour de la profession de l'enseignement. Sinon, j'aimerais t'entendre, Sophie, sur la campagne électorale, disons la pré-campagne électorale, qui commence tranquillement à se dessiner et à faire l'actualité.
On dirait qu'on est en campagne, en fait, Yasmine.
Oh oui, on l'est,
on voit les différents partis, non seulement annoncer des candidatures, mais prendre des engagements. Là, bon, on l'a vu, il y a eu des sorties. Ça fait déjà deux semaines qu'il y a autant d'engagements pris par le parti au pouvoir, la CAQ.
Il y a même des candidats qui sont gênants pour leur chef. C'est pas mal en campagne.
Mais il y en a partout, hein. Hey, moi, le François Legault qui fait marcher les enfants, ce serait cru dans l'ancien compte. Allez, Jimmy, marche! Écoute-moi, ça m'a un peu troublée, je dois te le dire. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de 4 ou 5 bloopers. Infoman sera assurément bien nourri, encore une fois, pendant cette campagne électorale. Mais oui, on voit des candidats mettre les partisans en barre. Mais on voit aussi différents groupes commencer à sortir, à se positionner. Puis on a vu, puis là, ben, en fille de région que je suis, on voyait la SQM ce matin qui sortait avec ses différentes demandes électorales pour se... c'est voir un peu, ça va être quoi la place des régions dans cette campagne-là? Comment on va accorder une forme de décentralisation? En fait, c'est ce qu'il demande la Fédération québécoise des municipalités, son président qui sort, pour dire il faut que le territoire au complet soit représenté dans la prise de décision au niveau des emplois gouvernementaux. Il faut qu'on décentralise et qu'on adapte les pratiques et façons de faire à la réalité du terrain, à la réalité du milieu. Et il y a beaucoup d'appétit pour ça, je crois, à l'extérieur des grands centres.
Quoique les relations entre la FQM puis le gouvernement de la CAQ, ça a quand même bien été durant ce premier mandat caquiste.
Complètement. Je crois que on marche main dans la main entre la Fédération québécoise des municipalités, le gouvernement de la CAQ, mais qu'on entend ce matin, c'est qu'il y a encore de la place pour l'amélioration, que oui, il y a une partie du travail qui a été accompli, oui, il y a une série de choses qui ont été réalisées, mais on revient avec un dossier qui, moi, me trouble profondément, Yasmine, celui de l'Internet haute vitesse. Peux-tu croire, Yasmine, qu'il y a encore des régions, des secteurs, puis pas juste des secteurs très éloignés, là, on parle pas du fin fond du Nord, on parle pas du bout du monde, on parle de certaines régions dans l'anneau d'hier, de certains secteurs dans le nord de Montréal, dans les Laurentides, dans des régions comme la capitale nationale, il y a des secteurs où on n'a pas de couverture Internet haute vitesse.
Mais on n'avait pas eu une annonce avec Justin Trudeau, avec François Legault, juste avant les élections fédérales, il me semble, à peu près il y a un an.
On a eu en fait, c'était pas la première, mais c'est la plus récente en liste. Mais c'est drôle, on n'en entend plus parler parce que non, c'est cet engagement-là qui avait été pris par les différents paliers de gouvernement n'est toujours pas accompli. On a encore des secteurs pour lesquels il n'y a pas de couverture de services. Puis là, dans un contexte où le télétravail est de plus en plus nécessaire. Tu sais, j'allais dire tolérer, accepter, mais c'est pas ça. C'est nécessaire, c'est demandé par les travailleurs de se retrouver dans un secteur où Internet aux vitesses n'offre pas de couverture. C'est infiniment pénalisant. Ça fait en sorte parfois que tu peux même pas offrir ta prestation de service professionnel. Donc, c'est vraiment un problème qui doit être adressé rapidement. Puis je pense que le rapport de force entre le gouvernement et les entreprises qui donnent la couverture cellulaire doit s'accentuer.
Ben absolument. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les municipalités vont se prononcer, probablement les logements sociaux, le transport collectif, la santé, les services sociaux. On a vu la mairesse Plante sortir également. Puis là, on n'a pas encore eu la liste d'épiceries de l'Union des municipalités du Québec qui, elle, représente les plus les grandes villes.
On a entendu déjà la mairesse Plante sortir à propos du pacte fiscal, remerciant le gouvernement de l'aide donnée pendant la pandémie, mais s'attendant à en recevoir tout autant pour les années à venir. Donc, effectivement, ça va être passionnant à suivre, Yasmine.
Et on va s'en reparler, ça, c'est certain. Sophie Villeneuve, toujours un plaisir de te parler et à très bientôt.
L'actualité peut être caniculaire. Donnez un coup de fraîcheur à l'information. Yasmine Abdel Fadel.
Culture et société.
Marie-Cosmar, il y a cette nouvelle qui vient de tomber. On apprend qu'il y aurait un important incendie en cours dans un édifice de la rue Sainte-Catherine à l'angle de Saint-Urbain qui serait nul autre que le théâtre du Nouveau Monde qui serait en train de brûler. Et c'est inquiétant pour notre scène culturelle montréalaise et québécoise.
Ouais, effectivement, les informations entrent au compte-gouttes là. On vient de l'apprendre là, il y a quelques minutes à peine. Le théâtre du Nouveau Monde, qui est quand même une institution là à Montréal, fondée en 1951. Tu le disais, c'est situé donc dans la place des Arts, au coin de la rue Sainte-Catherine et Saint-Urbain. Donc, comme je vous disais, les détails rentrent au compte-gouttes pour le moment. Peu de détails, mais ça semble être un important brasier là. Beaucoup de fumée qui se dégage de cet édifice. Donc, si vous pouvez éviter le secteur, ce serait idéal. Mais on vous reviendra certainement dans les prochaines heures avec plus de détails là, sur cet incendie qui frappe le Théâtre du Nouveau Monde.
Et espérons que les dommages ne seront pas majeurs pour ce théâtre. On a besoin de garder nos institutions culturelles en santé.
Oui.
Et debout.
Exact.
Mm-hmm. Sinon, parlons de Yellow Molo qui écorche et se fait écorcher.
Ouais, écoutons donc un extrait de Yellow Molo, cette formation qui a été qui a été mise en place au tournant des années 2000 vers la fin des années 90. On écoute un extrait. Wow! À une certaine époque, cette chanson-là, qui s'intitule Sabrina, et d'autres également, dont le petit castor Gros Zéro, jouait en boucle dans les radios commerciales.
Je m'en rappelle.
Oui, hein? Mais là, il y a quelques heures, le fondateur de cette formation musicale, Stéphane Hiel, a publié sur les réseaux sociaux que Yellow Molo n'existait plus. Une mesure qu'il a été contraint de prendre contre son gré, selon lui, et il attribue le blâme aux stations de radio commerciales. Justement, notamment les stations C'est quoi et Énergie. Il dit qu'à plusieurs reprises dans les 10 dernières années, ces stations de radio commerciales lui auraient tourné le dos lorsqu'il présentait des nouvelles chansons, lorsqu'il souhaitait faire jouer à ses nouvelles pièces, notamment celle-ci. Ça, c'est une nouvelle pièce qui vient tout juste de paraître, donc de la formation Yellow Molo. Et c'est un message, Yasmine, qui a été publié sur les réseaux sociaux, qui ne fait pas dans la dentelle. Et après avoir publié ce texte pour dire que la formation Yellow Molo n'était plus, Stéphanie a aussi annoncé de nouvelles pièces, dont celle-ci. Et il a dit que les stations de radio commerciales, notamment C'est quoi, Énergie, et toutes celles qu'il ne l'avait pas soutenues au cours des dernières années, n'auraient pas le droit de faire jouer ces nouvelles pièces-là, et qu'il n'aurait non plus le droit de faire jouer les anciennes pièces, notamment Sabrina, Gros Zéro et Le Petit Castor. Je me suis demandé s'il avait réellement le droit d'interdire à ses stations de radio donc un interdit de publication sur ses radios. Mais quand même, il a accordé une entrevue à notre collègue Vincent Dessereau hier et je vous propose d'écouter un extrait de cette entrevue.
Quand j'ai reçu le xème refus, ça a été trop un gros vide dans moi. Ça a fait comme « Ah oui, encore ». Je me suis dit « Je vais continuer à jouer de la musique, sinon je mourrais ». C'est thérapeutique pour moi. Mais tu sais, je vais jouer mes Blackbirds à la maison, puis je joue du piano avec ma famille, puis la guitare sèche autour du feu avec mes amis. Mais de rentrer dans le moule commercial, de prendre 2 ans pour, tu sais, faire une chasse aux mélodies, de la recherche de figures de style, d'essayer de rendre des choses intéressantes, puis d'interpeller les gens, parce que faire de la musique, pour moi, j'ai toujours été capable, mais j'ai toujours aimé aussi essayer de séduire le public, puis je me suis dit, non, mais je suis tanné qu'une équipe de cravates se mette entre moi et le public, parce que quand je fais des festivals, je vois bien que les gens aiment ça.
Et aux gens qui ont répondu en commentaire sous la publication, on savait même pas que vous faisiez encore de la musique.
Ben, c'est ça.
Exact. Il dit, ben encore une fois, c'est la faute donc des distributeurs de radio, des diffuseurs de radio notamment. Donc voilà, c'est la fin pour Yellow Molo, oui et non, parce que bon, ils viennent de faire paraître quelques nouvelles pièces.
Mais qui ne seront pas joués dans les radios commerciales.
Non.
C'est ça.
Oui, voilà.
On leur souhaite beaucoup de succès. Passons au deuxième sujet. On connaît maintenant les raisons pour lesquelles Brad Pitt et Angelina Jolie ne sont plus ensemble. En fait, pourquoi Angelina Jolie a laissé Brad Pitt?
Ouais, ben c'est un rapport du FBI qui vient tout juste de dévoiler donc les détails de l'incident qui s'est produit en 2016 alors que le couple était dans leur avion privé entre la France et les États-Unis. Angelina Jolie, oui, avait donc alors à ce moment-là dénoncé le comportement de son conjoint à l'époque qui était Brad Pitt. Donc ce qu'on peut lire dans le rapport du FBI, c'est qu'il l'aurait traîné de force dans les toilettes de l'avion, il l'aurait ensuite saisi par l'épaule et en la secouant et en lui criant dessus au point où leur fils aîné Maddox, qui était alors âgé de 15 ans, a dû intervenir. Ce qu'on peut lire également, c'est qu'une autre altercation serait survenue au cours du même vol. Elle aurait alors été blessée au coude. Il l'aurait donc agressée physiquement en versant une bière sur elle. Quelques jours après donc ces événements, elle aurait demandé le divorce et porté plainte aux autorités.
C'est particulier parce que ça fait plusieurs années. Tout le monde se posait la question pourquoi ils étaient séparés. Mais là, pourquoi c'est le FBI qui dévoile ces données-là, sais-tu?
Bonne question. Probablement que ça s'est rendu aux autorités supérieures.
Et il y a l'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux qui aurait pu sortir de prison, mais qu'on lui a refusé cette libération conditionnelle.
Oui, on se rappelle que le jeune homme de 29 ans avait écopé donc de 6 mois de prison au début de l'été pour avoir violenté l'influenceuse Elisabeth Rioux alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Durant donc l'année qui a précédé cette dénonciation, il s'en serait pris à elle de 13 à 15 fois. Il y aurait serré le bras, poussé la tête contre le mur, proféré des menaces de la brûler vivante notamment, de lui tirer une balle dans la tête. Bref, des menaces importantes. Il aurait pu bénéficier donc d'une libération anticipée au 6e de sa peine, mais le commissaire donc en a décidé autrement, jugeant qu'il ne s'était pas investi suffisamment donc dans sa réhabilitation. Et on peut lire donc dans cette décision du commissaire québécois des libérations conditionnelles que on peut lire ceci. Vous ne vous êtes pas mobilisé dans aucune mesure thérapeutique sérieuse avant l'incarcération. Vous ne produisez aucun renseignement permettant de croire que votre prise en charge pourrait s'amorcer au cours de la mesure libératoire que vous sollicitez.
Marika, as-tu l'impression que la chronique culturelle est devenue la chronique des faits divers et de la violence conjugale? Parce que là, on parle d'Angelina Jolie et Brad Pitt, puis qu'il l'aurait agressé physiquement. Puis là, on parle d'Elisabeth Rioux et son ex-conjoint qui doit rester derrière les barreaux. Ce monde-là, là, devrait pas donner l'exemple.
Exact. J'ai hâte que cette bulle-là, que cette vague-là, j'ai hâte qu'on en finisse avec cette bulle-là pour qu'enfin, parce que, en fait, la raison pour laquelle tout ça sort sur la place publique, c'est notamment pour montrer l'exemple puis soutenir aussi les victimes de violences conjugales, hein. Donc, j'ai hâte qu'on en ait fini avec ça et qu'enfin on ait compris, la façon dont on doit traiter les femmes. Et les hommes aussi, évidemment. Là.
Message à Brad Pitt, message à l'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux. Les femmes ne sont pas là comme des punching bags pour que vous puissiez vider votre sac et votre frustration sur elle.
Et j'admire ces femmes qui se tiennent debout et qui vont au bout donc de ces dénonciations. Là, c'est le cas des deux femmes dont je viens de vous parler là. Pour suivre Élisabeth Rioux de plus près parce que c'est une Québécoise, on sait que le processus n'a pas été évident, n'a pas été facile parce que c'est une personnalité très, très médiatisée ici au Québec, de même qu'Angelina Jolie. Donc, chapeau à ces deux femmes.
Chapeau à ces deux femmes et bon courage à toutes celles qui nous entendent et qui vivent ce genre d'agression. Nous sommes de tout cœur avec vous. Marika, reviens nous voir si tu as de l'information sur le Théâtre du Nouveau Monde.
Certainement.
Ça nous intéresse, évidemment, et on pense à toute l'équipe du Théâtre du Nouveau Monde.
À bientôt, à demain.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Tom Mulcair, bonjour.
Salut, Yasmine.
Alors, une mine dans un parc, veut-on avoir des mines de graphite au Québec?
Eh oui. Et c'est un exemple au niveau provincial. Donc, le Québec est aux prises avec un beau problème dans le sens suivant. On a besoin de graphite pour l'électrification des transports. Donc, c'est une cause louable, reliée à l'environnement. Mais d'une autre manière de le regarder, c'est surtout dans le sud du Québec qu'on retrouve ces gisements de graphite et des gisements importants, là, on parle. Le Québec pourrait vraiment devenir un leader là-dedans. Ça crée de la richesse, ça crée des emplois. C'est ce côté-là du bilan, évidemment, que Fitzgibbon et Legault vont regarder exclusivement. Mais un autre côté du bilan, un autre côté qui, en fait, toi et moi, on en a parlé dans un autre contexte hier, est même garanti par un droit prévu au terme de la Charte des droits du Québec, parce que en 2006, lorsque le Québec a adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale la loi sur le développement durable, ça a ajouté un article 46.1 dans la Charte des droits qui dit qu'on a le droit de vivre dans un environnement sain, dans le respect des normes environnementales et le respect de la biodiversité. Donc, c'est très important. Mais ça, ce bout-là est en train d'être évacué par Legault. Il refuse même, les journalistes qui essaient d'avoir des réponses du gouvernement n'en ont pas. Les candidats de la CAQ paniquent un peu, on concocte pour eux autres des belles phrases, là, style « mais c'est pas encore décidé ». Mais cet exemple-là, c'est dans les Hautes-Laurentides, dans le coin de Mont-Laurier, mais il y a un parc, justement, régional, qui est là pour la protection de la biodiversité. Puis ça va même empiéter sur un parc. Ça me rappelle tellement l'époque du Mont Harford, ça n'a pas de bon sens.
Mais que faire, Tom? On a besoin de graphite pour faire la transition énergétique.
Oui, mais si on regarde juste un côté du bilan, ça va toujours être oui. Et c'est un peu une tendance lourde, j'oserais dire, Yasmine, égard. Si on regarde la tendance de Legault, bon, on apprend que des propriétaires d'appartements pourris utilisent toutes sortes de subterfuges pour faire ce qu'on appelle des rénovictions. Attitude Legault, laisser faire. On apprend qu'une entreprise comme la Fonderie Horn dépasse les normes. Pendant 4 ans, attitude, laisser faire. Oups, il y a une élection, on va dire qu'on va avoir de nouvelles normes dans 5 ans. Entre-temps, on a eu des preuves par la santé publique que ça pouvait augmenter les causes de cancer, être une cause de cancer et augmenter le nombre de cas de cancer. Et qu'est-ce qu'on a appris d'autre? Bien, justement, que les autres, on a plein d'autres compagnies à travers le Québec qui dépassent les normes. Donc, si l'attitude, c'est laisser faire et pro-business, pro-entreprise à tout bout de champ, ben c'est là où on se ramasse. Donc, il faut avoir une approche crédible et équilibrée et c'est là où le bas blesse avec M. Legault. Parce qu'il est tellement penché en faveur des entreprises et tellement contre le public dans ces dossiers-là, qui n'a plus de crédibilité. Moi, je vais dire quelque chose en faveur quand même de Legault. Il a eu le guts de dire non à l'extraction des hydrocarbures sur le territoire québécois. Donc, ça, c'est un exemple.
Mais il n'y en avait pas déjà.
Il n'y en avait déjà plus, mais il y avait un gros projet de gaz naturel liquéfié, qui était le projet Énergie Saguenay. Et ça, on devait faire venir de l'Ouest canadien du gaz naturel qu'on aurait liquéfié, mettre dans des gros transporteurs sur une des plus belles rivières au monde, le Saguenay. Et finalement, ça a été décidé, non, qu'on stopperait ça. Donc ça, ils sont capables de le faire pour des trucs comme ça qui sont à la vue du public. Mais lorsqu'il s'agit de Lanaudière, lorsqu'il s'agit des Hautes-Laurentides, lorsqu'il s'agit de l'Outaouais, petite nation, et ainsi de suite, on dirait qu'ils disent, ben, laisse les gens s'organiser entre eux autres sur le terrain, on va approuver tous ces projets de mine-là. Ça prend quand même une vision d'ensemble. On doit justement comprendre que environnement et santé vont de pair. Et on vit la même chose à Ottawa de ce temps-ci. Trudeau était tellement... Il est toujours... En fait, c'est un extraordinaire politicien. Puis il maîtrise l'art de dire ce que les gens veulent entendre et il les laisse avec l'impression qu'il va faire quelque chose. Mais pour ce qui est des gaz à effet de serre et les changements climatiques, le Canada a le pire bilan du G7 depuis qu'on a signé l'accord de Paris. Et on était le premier pays... l'accord de Paris était une chose, mais avant ça, le protocole de Kyoto, on était le premier pays du monde à sortir du protocole de Kyoto. Qu'est-ce qu'on apprend depuis deux semaines? Stephen Guilbeault s'est pas contenté d'approuver un énorme projet d'extraction pétrolière au large de Terre-Neuve-Labrador, dans un endroit très fragile côté biodiversité. Là, il a dit, ben, vous savez, on avait dit qu'on ferait moins 40% minimum en 2030, ben, on pourrait pas. Ça va prendre quelques années de plus, parce que c'est ça que les compagnies nous ont dit. Donc, il se tient même pas debout pour le propre truc que Trudeau a annoncé il y a à peine un an, avec beaucoup de fracas. Il l'a fait le 22 avril, jour de la Terre, il l'a fait avec Biden. Biden disait 40%, Trudeau 30-35%, Trudeau disait minimum 40%, peut-être 45%. C'était du grand chiquet, mais c'était aussi du grand Trudeau. Parce que les conservateurs de Harper regardaient l'environnement, crachaient dessus, ça les dérangeait pas, c'était leur image de marque, puis ils s'en foutaient. Trudeau est plus wise que ça. Il sait que c'est important pour le public canadien, pour les électeurs. Donc, il fait semblant.
Mais il fait semblant, c'est ça. C'est plus dans la rhétorique que dans les actions.
Ben, Guilbeault aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui pour Guilbeault? Bon, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de visiter les exploitations des sables bitumineux, mais c'est une entreprise...
Je n'ai pas eu cet honneur.
C'est pharaonique. Je suis allé plusieurs fois, et dont une bonne partie d'une journée en hélico pour vraiment avoir une idée de l'ampleur de ce que ça représente. Il y a une magnifique rivière qui s'appelle l'Athabasca, qui est dans un bassin versant sud-nord. Donc, c'est une rivière qui coule vers le nord. Et vers, justement, une Première Nation dans le lac Athabasca, une Première Nation qui subit les affres de ça. Vous savez quoi? Il y a un médecin qui s'appelle O'Connor, qui avait découvert une série de cancers rares. Quand il a annoncé ça, il s'est fait menacer de perdre son permis de pratique comme médecin. Et c'est là où on est rendu. Donc, on apprend dans les journaux aujourd'hui même que Guilbeault dit qu'il songe, il dit que ce n'est pas la seule solution, voulant dire qu'il va le permettre. Il y a des énormes étendues, ce sont des étangs de sédimentation des résidus de l'exploitation des sables bitumineux, parce que ça crée énormément de pollution. Donc, c'est retenu dans des lacs quasiment artificiels. Il dit, oui, on va peut-être, mais c'est peut-être pas la seule solution, on peut peut-être trouver une solution technique qui n'existe pas, et on va laisser ça aller directement dans cette rivière magnifique qui s'en va déjà vers les Premières Nations, qui déjà souffre de ça. Donc, on n'a pas besoin de regarder seulement Rouyn-Noranda, bien que c'est l'exemple qui frappe l'imaginaire ici au Québec. On a besoin de regarder l'ensemble de l'œuvre à travers le Canada. On a, à l'international, parce que c'est un grand pays, puis on voit beaucoup de neige puis des ours polaires, on a une réputation à l'international. On doit bien faire ça en environnement. Tandis que la réalité, c'est que depuis qu'on a créé le premier ministère de l'Environnement il y a une cinquantaine d'années, le Canada est un des cancres de la place. On est vraiment sous-performant en termes d'environnement, puis on est en train de le vivre encore aujourd'hui.
Mais Guilbeault, j'ai l'impression qu'il est en train de jouer toute sa réputation, sur quoi il s'est construit, les valeurs sur lesquelles les personnes l'ont suivi. Il est en train de mettre tout ça sur la table pour quelle raison? celle du pouvoir? C'est-tu
celle du pouvoir, parce que lui, il s'est auto-convaincu. Moi, j'ai assisté à sa soirée de mise en candidature avant les élections de 2019. Trudeau était là. Et Guilbeault, j'étais étonné, parce que qui disent qu'il veut aller aider Trudeau, les libéraux, c'est tout à fait correct. Mais il est allé d'un envolé lyrique disant que Trudeau était le, tu sais, en style tête à claque, le plus meilleur premier ministre qu'on a jamais eu pour l'environnement au Canada.
La meilleure chose après le pain tranché.
Ben, écoute, moi le mâchoire est tombé sur la table. Moi, j'assistais dans mon rôle pour LCN TVA, mais je n'en revenais tout simplement pas à ce que j'entendais. Il n'y avait pas de nuance. Il n'y avait même pas de tentative d'être équilibré dans son approche. Trudeau, c'était le meilleur. Alors moi, j'étais quand même étonné. Il devient, ça a pris 2 ans parce qu'il a passé 2 ans au patrimoine, pure perte de temps pour lui et pour le dossier. Donc, il arrive enfin à l'environnement. Il y a, en une semaine, le pire rapport jamais généré par les Nations Unies sur les changements climatiques, le réchauffement de la planète et tous les dangers que ça représente. Le secrétaire général des Nations Unies implore les pays du monde de ne plus approuver de projets d'exploitation et d'extraction d'énergie fossile. Le Canada est en train de signer, cette semaine-là, on annonce notre gros plan pour réduire les gaz à effet de serre, et dans les 48 heures, on approuve cet énorme projet qui s'appelle Baie du Nord, au large de Terre-Neuve-Labrador. Donc, c'est une série de mouvements pour séduire le public et les faire croire qu'on agit en environnement, tandis que la réalité, c'est exactement le contraire. C'est ça qui est si tragique avec Trudeau, parce qu'il réussit quand même à berner pas mal de monde.
Tom, il y a cette nouvelle que je viens de voir, Thomas Gerbes, qui est évidemment sur la fonderie Horn depuis plusieurs semaines, mm-hmm, et qui sort de l'information.
Qui fait un très bon travail.
Fait un très bon travail, et qui a publié sur Twitter qu'il y avait il a mis la main sur un document du gouvernement du Québec de 2021, où on découvre que la fonderie Horn estimé possible d'atteindre une concentration d'arsenic en deçà de 20 nanogrammes par mètre cube dès 2024, alors que là, le gouvernement lui propose d'atteindre le 15 nanogrammes en 2027.
Oui.
C'est un recul.
Ben oui. Et c'est ça, le duo, le tandem Legault-Fitzgibbon, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va toujours privilégier les riches, les mieux connectés, les grosses entreprises, et c'est ça. Écoute, regarde une chose aussi simple que le prix du pétrole ici au Québec par rapport à l'Ontario. On me dira avec raison qu'il y a une différence de taxes, c'est vrai. Mais la différence de taxes ne justifie pas la prime qu'on paie au Québec, tellement plus élevée de notre essence qu'en Ontario. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un avec un peu de tonus autour de la table du Conseil des ministres de Legault qui va vociférer et dire « Hey, je vais convoquer les grandes pétrolières pour mettre mes poings sur la table et dire ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que vous nous chargez tellement plus cher pour notre pétrole ici au Québec, pour notre essence? » Ils vont jamais le faire. Et c'est ça. Donc, ils doivent être là pour le public, et on dirait que le public est toujours en arrière-plan par rapport aux grandes entreprises. Pro-business, c'est une chose, mais pro-business contre le public et ses intérêts, et en l'occurrence sa santé, ça ne devrait pas exister. Et je ne pense pas que Legault pensait que l'environnement, santé publique, Fonderie Horn, c'est la pointe de l'iceberg. C'est juste le bout de l'iceberg. Il y a toute cette attitude-là, au jour le jour, qui est là de la part de Legault et de Fitzgibbon, et je pense que ça va faire partie intégrante de la campagne électorale à un point où ils n'avaient jamais prédit.
Ben, l'environnement, on se rappelle que la dernière élection qui a porté au pouvoir la CAQ n'avait fait aucun engagement en matière d'environnement. Tout simplement, aucun.
Mais au risque de te surprendre, Legault a fait une chose parce qu'il avait vu qu'il y avait une faille majeure. Le gouvernement libéral de Couillard avait fait défaut d'appliquer, parce que c'est souvent ça, c'est pas qu'il manque la loi ou le règlement, c'est qu'on fait défaut de l'appliquer. C'est ça, Fonderie Horn, finalement. Donc, on a fait défaut d'appliquer les lois très strictes et les règlements très stricts sur les sols contaminés. des compagnies mafieuses avaient pris le contrôle de très gros chantiers à Montréal, puis on dompait allègrement dans la nature, surtout dans les basses Laurentides, ces sols contaminés. Je me souviens qu'à une place comme Sainte-Sophie, on était obligé d'émettre un avertissement de ne pas laisser s'abreuver le bétail dans l'eau de surface, tellement qu'il y avait de pollution chimique très dangereuse. Donc, avec ça comme background, Legault a quand même fait une chose. Il a remis en place un système de traçabilité des sols contaminés. Donc, quand ils veulent, ils peuvent.
Mais ça reste maigre comme bilan en matière environnementale.
Mais tout à fait. Et ce serait intéressant de voir si d'autres partis, notamment QS et les libéraux, Anglade, Ingénieur, elle comprend ces dossiers-là. On va voir s'ils réussissent à les pousser de l'avant lors de la campagne.
Tom Mulcair, on se parle demain. C'est toujours un plaisir de te jaser.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
8h30 précise, moment d'aller joindre Yasmine Abdel Fadel qui anime l'émission matinale à Cube Radio. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
On le sentait, on vient tout juste d'en parler avec Marianne Alpin, on le sentait, plusieurs le voyaient, le percevaient, mais là c'est chiffré ce déclin du français, non seulement au Canada, mais également au Québec.
Ben c'est surtout les francs que le français recule. On le voit comme langue, première langue officielle parlée, comme évidemment langue maternelle. Et même ailleurs au pays, les communautés francophones, que ce soit de l'Ontario ou dans d'autres provinces, ben ça recule.
Au Nouveau-Brunswick.
Au Nouveau-Brunswick, ouais. Évidemment, ça recule un peu partout. Ça recule ici au Québec, ça recule beaucoup à Laval, dans la grande région de Montréal et en Outaouais. Et ça devrait être un signal d'alarme qui devrait avoir un effet rassembleur sur nous. Parce que là, aujourd'hui, on a compris que les divisions du « vous » contre nous, les francophones versus ceux qui ne parlent pas assez bien français, ces chicanes-là ne nous permettent pas de renverser la vapeur, ne nous permettent pas de renverser cette tendance que l'on voit qui est lourde. Plus que jamais aujourd'hui, le discours à propos de la vitalité, de la pérennité du français au Québec, son rayonnement, ça doit être un discours inclusif. On ne peut pas se permettre de diviser et de soustraire dans cette armée que l'on devrait constituer de petits soldats pour la lutte aux Français, pour le français, pour améliorer le français au Québec. Il ne devrait plus y avoir de petites politiques partisanes de division sur la langue française. C'est beaucoup trop important, c'est beaucoup trop viscéral, c'est notre identité qui est en jeu. Et aujourd'hui, il faut mettre de côté les chicanes divisives et se dire comment on peut tous contribuer, peu importe les couleurs politiques, peu importe les allégeances, notre vision du Canada ou l'avenir du Québec, comment on peut tous contribuer pour assurer que cette minorité francophone qu'est le Québec, ouais, ben, continue, traverse les années, soit pérenne et qu'on en soit fier.
Ça, c'est le souhait, Yasmine. Mais dans réalité, en pleine campagne électorale, on va beaucoup parler de langue.
Je sais. Et j'ose espérer qu'on va pouvoir voir ces chiffres-là et ne pas vouloir se trouver des coupables. L'objectif n'est pas de trouver des coupables sur ces chiffres-là. On est tous un peu responsables, on est tous un peu coupables du constat que l'on fait aujourd'hui, mais plutôt parler des solutions, puis des solutions qui sont inclusives. La langue française, là, il va falloir la faire aimer, la faire adopter, il faut qu'on en soit fier et que cette fierté, on puisse la partager. Je suis peut-être dans le monde des câlinours, je suis peut-être jovialiste, je suis peut-être beaucoup trop optimiste et que c'est une campagne électorale, ça ne rime pas nécessairement avec cet état d'esprit, mais j'ose espérer J'ose espérer que nos politiciens vont se dire, OK, est-ce qu'on peut se parler, trouver des solutions qui vont réellement jouer sur ces indicateurs que l'on voit aujourd'hui et qui sont au rouge?
Parlons par ailleurs de la rentrée scolaire, Yasmine. C'est la troisième, l'air de rien, sous le signe de la COVID. Le ministre, on va le recevoir à 9h, là, mais il semble assez optimiste. Et l'es-tu autant?
Ben, je suis bien optimiste pour notre capacité à faire face au déclin de la langue française. Je ne sais pas si je le suis pour notre éducation, mais Marianne, j'ai regardé ce matin les images notamment de TVA où on est tous heureux que l'école Louis-Joseph Papineau ait enfin des fenêtres. Puis là, j'ouvre le journal puis je me dis...
Oh, le on ministre... prend un petit pas de recul puis on se dit...
Puis là, je vois le ministre qui nous dit « Ah, ben je vous promets qu'il y aura un enseignant par classe. » Puis là, je regarde qu'on ouvrait toujours les fenêtres pour la ventilation. Là, je me dis, ben, c'est-tu vraiment ça, les sujets de la rentrée scolaire? C'est qu'on va se congratuler qu'une école ait des fenêtres pour qu'elle puisse les ouvrir et se ventiler en cas où on de pandémie? Ça fait dur, notre réseau de l'éducation, et j'espère qu'on en prend conscience. J'espère que ce réveil pandémique de la qualité de l'air, de la vétusité de nos écoles va pouvoir permettre des vrais investissements qui vont permettre à nos enfants d'avoir accès à des infrastructures de qualité où c'est le fun, on a le goût, on veut avoir le goût d'aller à l'école puis d'y rester le plus longtemps possible.
Bien dit. Merci beaucoup, Yasmine.
Merci, Marianne.
Bonne journée à toi.
Ex-conseillère politique, et ça fait bien notre affaire. Yasmine Abdel-Fadel.
On a parlé de l'ex-conjoint d'Elisabeth Rioux qui ne sortira pas au sixième de sa peine en raison de son manque d'effort et de reconnaissance de ses torts, finalement. On avait envie de creuser la question un peu plus loin et démystifier la question de la réhabilitation des hommes à la suite de la commission de violence conjugale. On en parle avec Diane Allard, coordinatrice clinique au Centre Yvon Mercier dans Chaudière-Appalaches. Bonjour, Madame Allard.
Bonjour.
Alors, comment on évalue les risques de récidive de quelqu'un qui a déjà commis des agressions conjugales?
En fait, pour évaluer les risques de récidive, il y a plusieurs éléments. On travaille avec des outils d'évaluation, mais ce qui est important, c'est beaucoup la relation qu'il y a entre l'intervenant et le client pour être capable d'identifier clairement ce qui pourrait amener la récidive chez ce client-là. Il y a plusieurs facteurs et c'est très individuel. Quand j'entends, moi, que quelqu'un ne sortira pas de pénitentiaire parce qu'il n'est pas prêt et qu'il n'a pas assez travaillé, je dis bravo, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher le client tant et aussi longtemps qu'il n'a vraiment pas travaillé, ce qui l'amène à avoir des comportements violents. Et ça, c'est très individuel chez chacun. Donc, chez nous, c'est comme ça qu'on travaille de façon personnelle jusqu'à temps que le client ait bien intégré pour être capable de l'amener dans un processus de changement. C'est un travail sur soi qui doit être intense, sérieux et très... Faut que le client vraiment s'investisse dans cette démarche-là.
Ce que je trouve intéressant dans le cas de l'ex-conjoint violent de la femme d'affaires et l'influenceuse Elisabeth Rioux, c'est que... L'intervenante avait fait une recommandation positive à la commission des libérations conditionnelles et malgré ça, les commissaires ont décidé qu'il ne méritait pas de sortir au sixième de la peine. Donc, comment on peut justifier ces disparités? Est-ce que c'est quelque chose de courant que vous voyez dans votre quotidien?
C'est difficile à répondre parce que probablement cette décision-là, il y a d'autres éléments qu'on ne connaît pas pour qu'elle ait pris cette décision-là. En principe, quand on nous demande d'évaluer un client, ce qu'on ressort, c'est tous les éléments que nous, on voit qui pourraient l'amener, dans le fond, ce qu'on appelle les facteurs aggravants, qui pourraient l'amener vers la récidive. Eux, probablement aussi, qui ont évalué les comportements qu'il y avait eu à l'intérieur. C'est difficile de... Écoutez, moi, je souhaite vraiment qu'on travaille plus ensemble, plus collaborer, plus près, parce que les maisons qui sont spécialisées auprès des hommes, à mon avis, à moi, sont beaucoup plus équipées pour évaluer les risques de violence, parce qu'on travaille beaucoup plus profondément avec ces hommes-là. Les comportements qu'ils peuvent avoir à l'extérieur, ça fait pas qu'on peut voir les facteurs aggravants, là. Mais pourquoi ils en sont arrivés à cette décision-là? Il manque beaucoup d'éléments pour répondre à cette question.
Au-delà de la reconnaissance du tort causé à autrui, c'est quoi les éléments que vous regardez pour juger si une personne est dans le bon chemin de la réhabilitation?
D'abord, il y a tout le principe de prendre la responsabilité de ses comportements. Quand je dis prendre la responsabilité, je ne dis pas un homme qui me dit « Ah oui, je sais que je suis violent ». Non, non. Ça va plus que ça. Ça va être capable. On travaille beaucoup au niveau de prendre conscience de ses comportements, prendre conscience de l'impact que ça a dans la société, sur son environnement et les conséquences que ça a. Parce que quand un homme a des comportements violents, ça touche beaucoup de gens autour, socialement. Pas juste la famille. C'est beaucoup plus large. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. Apprendre à accepter que j'ai des comportements violents est l'étape la plus difficile qu'on a traversée avec ces clients-là. Ensuite, être capable de l'assumer. Arrêter, hein, moi j'appelle ça souvent la maladie des stacoses. Sortir des stacoses de ci, puis c'est à cause de ça, puis c'est à cause de elle. Être capable de dire, j'ai des comportements violents. Donc, En travaillant ces étapes-là, on arrive dans un processus de changement. Où là, on essaie des nouveaux comportements. L'homme se comprend plus. Il est plus démêlé. Il comprend plus. La violence, elle n'a jamais d'excuse. Hein, faut être clair là-dessus et on le ramène souvent au client. Il n'y a aucune excuse pour avoir des comportements violents. Mais comprendre qu'est-ce qui m'amène à avoir des comportements violents m'aide à défaire ce fonctionnement-là. C'est tout un processus.
Ben oui, ça a l'air d'être... C'est pas aussi simple que c'est non. dit. Les mesures thérapeutiques que l'on peut mettre en place pour pouvoir accompagner quelqu'un, un agresseur, par exemple, ou un homme violent, ça ressemble à quoi?
En fait, chaque maison pour hommes a sa façon de travailler. Nous, on a choisi depuis quelques années, en fait, ça fait 30 ans qu'on travaille, plus de 30 ans qu'on travaille avec les hommes qui ont des comportements violents. On a cessé il y a quelques années de faire du groupe. C'est une question très personnelle à notre établissement. Dans le fond, nous, on croit plus que travailler les hommes de façon individuelle donne des meilleurs résultats. Pour nous, c'est notre croyance à nous, on respecte celle des autres, mais nous, on travaille beaucoup au niveau d'individus. Donc, ce qui fait la différence aussi, c'est que chez nous, on prend pas un client en disant 5 rencontres, 10 rencontres et c'est terminé. Donc, quand on commence avec un client, le temps qui va être chez nous, c'est le temps que ça va prendre pour être capable de se responsabiliser vraiment et rentrer dans un processus de changement.
En moyenne, ça ressemble à combien de rencontres à peu près, en moyenne?
J'ai rarement des hommes en bas de 15-20 rencontres, puis j'en ai que ça fait plus d'un an qu'ils sont avec nous.
Et pendant ce temps-là, vous documentez, j'imagine, le cheminement de sa réhabilitation et de sa prise de conscience.
Oui. La réhabilitation qu'on parle est beaucoup sur le plan personnel. Hein. Ces hommes, la majorité de ces hommes-là, socialement, là, ça paraît pas qu'ils ont des comportements violents. C'est souvent au niveau de la famille ou au travail, c'est très... très spécifique, oui, il y en a, là, que c'est de façon générale, mais dans la majorité de nos clients, ça tourne plutôt autour de la famille, la violence. Donc, socialement, ça paraît pas. C'est pour ça que je dis que la réhabilitation est beaucoup du plan personnel de l'individu. C'est lui qui doit se réhabiliter, là.
Oui, c'est ça. Vous l'accompagnez, mais vous ne le réhabilitez pas vous-même.
Non, si j'avais ce pouvoir-là, je m'en servirais tellement.
Ah, je
mais
comprends.
Non, ça y appartient, puis il y a beaucoup de facteurs. Puis il faut pas penser non plus qu'il y a des hommes, des fois qui sont envoyés par le tribunal sur ordonnance, il y a des hommes qui viennent de reculons parce que leur conjointe a mis un ultimatum. Il faut faire confiance aussi que dans l'intervention, ça fait partie de ça. Quand on accueille des hommes, que ça ne le tente pas d'être là. C'est pas facile de dire « j'ai des comportements violents ». Là. À assumer, ils ont déjà la honte qu'ils portent. Bon, c'est pas facile. Mais ce que j'allais dire, c'est que chez nous, quand un homme nous arrive qui n'est pas volontaire, on commence par travailler ça. L'amener, lui, à prendre conscience qu'il a intérêt à travailler, à y montrer l'impact que ça a pour lui puis pour les autres. Donc, ça aussi, ça fait partie de la démarche. Mais moi, personnellement, je crois pas vraiment que quand on dit si un homme veut pas, ça donne rien, ça fait partie du processus. Faut préparer cet homme-là à accepter qu'il va travailler ses comportements. Il va devoir le faire.
Est-ce que vous avez de ces abonnés-là qui c'est les portes tournantes en prison, dans le pénitencier, puis qui finissent toujours par débarquer chez vous, mais que ça marche pas, le processus de réhabilitation?
Je vais vous dire, moi, ça fait 7 ans que je suis au centre Yvon Mercier, mais ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine, puis depuis qu'on est dans, on a installé ce programme-là au centre Yvon Mercier, j'ai rarement revu les mêmes clients.
Ah.
J'en ai pas vu 10, en tout cas, en 7 ans, qui sont revenus.
C'est intéressant, ça, c'est de savoir que ça a un impact, là, c'est réel, là, c'est pas juste des statistiques un peu en l'air.
Vous savez, les statistiques, c'est dur à définir, hein, des statistiques, dans ce domaine-là, c'est dur à dire, mais nous, on a des contacts, souvent, il y a des femmes qui nous rappellent aussi pour nous dire comment c'est rendu, parce qu'il y a des couples qui sont pas nécessairement séparés. Oui. Parce que ça, depuis 2 ans, nous, on le fait. On fait du coaching pour couple où il y a de la présence de violence verbale, psychologique, et que le couple, parce qu'on sait que ça existait avant, souvent, même s'il y avait de la violence, le couple ne voulait pas se séparer. Et qu'on s'est dit, tant qu'à aller contre ce qu'ils veulent, on va les aider à travailler leur relation de couple, de communiquer, de voir c'est quoi les déclencheurs, qu'est-ce qui nous amène que ça part en escalade. Donc, on fait du coaching de couple depuis 2 ans, et ça aussi, on est étonné des résultats.
C'est oui, c'est ça. Oui. C'est un travail de tous les jours et un travail qui n'en finira jamais, j'ai l'impression. Madame, alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes coordinatrice clinique au Centre Yvon Mercier dans Chaudière-Appalaches. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, on apprend que Frédéric Silva, on le sait, c'est cet ex-tueur à gages qui est passé à la table et qui a fait des aveux aux policiers. Ben, ça a permis de résoudre plusieurs dizaines de meurtres après ces aveux explosifs. Félix Séguin, c'est toute une histoire, c'est la saga de Frédéric Silva.
Ben oui, ça est une énorme histoire et on va en parler pendant toute la durée de la chronique, si tu veux bien, parce qu'il y a tant à dire sur cet article que nous avons publié au bureau d'enquête, là, en compagnie de votre humble serviteur et de mon fidèle ami et partenaire Éric Thibault. Au fond, ce qu'Éric et moi avons trouvé, c'est que l'ex-tueur à gage, Frédéric Silva, tu l'as bien nommé, aurait confessé ou informé, si l'on veut, les autorités des gens qui étaient derrière, qui auraient commandité, qui auraient participé, qui auraient aidé, qui auraient comploté à commettre plusieurs dizaines de meurtres au Québec. Et juste pour te donner, si tu veux, un aperçu de l'importance des déclarations de Silva transmises aux policiers, on s'entend sur une chose dans le milieu du renseignement criminel au Québec. Les confessions de Frédéric Silva permettent d'élucider plus de meurtres qu'en a permis Gérald Galland. Gérald Galland aurait été oui. En Suisse. En 2006, qui fait l'objet maintenant d'un film réalisé par Luc Picard, en a commis 28. Alors, fais le calcul, Yasmine, c'est plus que 28. C'est donc énorme. Rappelle-toi une chose, et dans le journal aujourd'hui, là, si vous achetez le journal, si vous allez le consulter sur notre site, vous allez voir Frédéric Silva, puis c'est la photo qui orne l'article, qui est en tête de l'article, vous allez voir Frédéric Silva à l'aéroport Montréal-Trudeau, en compagnie de Leonardo Rizzuto et Stefano Sollicito. Ce sont l'organisation, les têtes, si l'on veut, dirigeantes de cette mafia organisée de manière bicéphale, la mafia sicilienne à Montréal. Ça ne veut pas dire que parce que Frédéric Silva est pris en photo avec Leonardo Rizzuto et Stefano Sollicito, qu'il est nécessairement celui qui exécute leur base d'œuvre. Mais on s'entend que les policiers croient que oui. Et on le voit plus tard en photo avec Grégory Woolley, entre autres, l'ancien fondateur des syndicats, puis un criminel de haut vol au Québec. Et c'est donc les policiers qui sont en train de consulter les déclarations de Silva et qui se rendent compte que Silva a commis des meurtres lui-même depuis le début, milieu des années 90 jusqu'à tout récemment. C'est à peu près 25 ans de meurtres dans le crime organisé dont Silva informe les policiers. Alors, il en a commis lui-même, Yasmine, plusieurs. Il a été complice de plusieurs autres. Il avait tellement de contrats de meurtre, nous dit-on, qu'il est devenu presque une boîte aux lettres pour les commettre, c'est-à-dire il recevait les contrats et lui les sous-traitait à d'autres membres du crime organisé pour les commettre. Donc ça le place dans une situation, bien sûr, de complot pour meurtre. Et il a été aussi témoin direct de certaines commandes qui ont été passées mais qui n'ont pas été réalisées par lui. De là justement, ce nombre effarant de meurtres qui pourraient être élucidés au cours des prochains mois, probablement plus des prochaines années, en raison de ces confessions. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Frédéric Silva, Yasmine, c'est un jeune homme qui a grandi dans le bout de la rue Jarry. Il était très peu scolarisé, mais on nous dit de très bonnes sources qu'il s'exprime et qu'il écrit avec une telle concision, avec une telle précision, ça surpasse de loin, en tout cas, le niveau d'éducation qu'on pourrait lui attribuer. Donc, il a une mémoire qui est fidèle et précise. Ajoutons à ça, Yasmine, aussi le fait que quand on devient un témoin spécial, soit pour la couronne ou pour les policiers, la première chose que l'on fait, c'est une déclaration de vie. C'est-à-dire qu'on enregistre. Normalement, je crois que c'est sur vidéo. Je ne sais pas si dans le cas de Sylvain, si c'est sur vidéo ou c'est seulement un enregistrement puis un verbatim qui est produit ensuite. Mais au fond, il doit remonter à sa plus tendre enfance puis raconter sa vie particulièrement criminelle aux policiers. Et ces déclarations-là ont été visionnées ou vues ou lues par une petite poignée d'officiers là, faisant partie de l'élite du renseignement criminel au Canada. Et c'est avec ça que les policiers vont maintenant travailler pour entamer des projets d'enquête pour coffrer plusieurs membres du crime organisé au pays. Pas juste au Québec, là, au pays. Écoute, tu m'envoies, là, tu me vois assez exalté quand je te parle de ça, alors qu'on parle de meurtre.
C'est tellement gros. C'est majeur dans le paysage criminel, disons, montréalais et québécois. Et ce qui est particulier, Félix, j'aimerais t'entendre là-dessus, c'est que la plupart des tueurs à gages qui se mettent à table demandent de l'argent à l'État. Pas exact. Le cas de Frédéric Sylvain.
Non. Parlons maintenant de la dynamique qui s'instaure quand on est un tueur à gages, puis que nos crimes sont connus. Pas avant d'être emprisonné, mais pendant son emprisonnement, puis pendant ses procès, puis au cours des dernières semaines, Frédéric Silva a vu plusieurs de ses anciens acolytes qui ont participé ou qui ont aidé la commission de certains de ses crimes se faire assassiner. Donc, pour un tueur à gages, c'était la même chose pour Gérald Galland. Quand les policiers ont une preuve et ils sont capables de le relier, le tueur à gage, à des meurtres et à plusieurs meurtres dans le cas de Silva ou de Galland, la première réflexion du tueur à gage est la suivante. Donc, les policiers savent que je suis le tueur de l'organisation X ou de l'organisation Y. Dans le cas de Gérald Galland, c'était l'organisation de Raymond Desfossés. Et le calcul se fait très rapidement dans leur tête, c'est-à-dire si on connaît le nom de mes commanditaires, ça veut dire que mes commanditaires, eux, pour éviter que je témoigne contre eux, vont m'assassiner. Et c'est une réflexion qui se fait souvent. Alors, la position de négociation d'un délateur, dans le cas de Gérald Galland, là, il y a eu quelques centaines de dollars de cantine par mois, puis la protection pour sa femme, puis la fille de sa femme, si je ne m'abuse. Il n'était pas en position de demander des millions de dollars.
Non.
Et dans le cas de Silva, c'est la même chose. Mais il y a quelque chose, il y a une étape de plus franchie dans le cas de Silva. Au sens de la loi, Silva n'est même pas un délateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat avec le ministère public. Il n'y a pas de signature entraînant le paiement d'un montant. Il est simplement un témoin spécial, entre guillemets, qui pourrait se présenter à la cour lorsque requis. Alors, ça présuppose un travail énorme à faire, notamment par d'éminents juristes là qui font partie du service de poursuite de l'État et du DPCP. Comment on va gérer les confessions de Silva? On peut pas décider si Silva donne 50 meurtres, par exemple. Et c'est très possible qu'on soit dans ces eaux-là. On peut pas se réveiller demain matin pour arrêter 50 personnes sur la seule foi du témoignage de Silva. Ça prend beaucoup d'éléments de corroboration, puis etc.
Sa crédibilité aussi, disons qu'il n'a pas la crédibilité la crédibilité nécessaire. Là, j'imagine que les avocats de la défense vont pouvoir arguer ça.
Ben oui, mais rappelle-toi, de triste mémoire, Maurice Boucher, qui a subi le premier procès pour le meurtre des gardiens de prison de Diane Aving et Pierre Rondeau à la fin des années 1990. Le délateur Stéphane Godasse-Gagné, l'un des délateurs les plus célèbres au Québec, avait témoigné dans un premier procès et sa version n'avait pas été crue parce qu'on avait miné sa crédibilité. Avec les policiers puis des membres du DPCP, rappelle-toi qui était la juge, d'ailleurs, France Charbonneau dans le deuxième procès, si ma mémoire est fidèle, Régent Boilard dans le premier, si ma mémoire est tout aussi fidèle, mais dans le deuxième procès, Stéphane Gagné avait beaucoup mieux témoigné, avait revu sa manière, justement, de répondre aux questions, et Maurice Boucher avait été condamné, puis il est en prison depuis. Alors, c'est de l'or en barre, si l'on veut, que le témoignage de Silva, puis on apprend en plus des intrigues un peu inextricables là, dans, au cours desquels Silva a changé d'identité à plusieurs reprises, plusieurs passeports, plusieurs voyages. Franchement, je serais bien étonné que cette histoire n'inspire pas plusieurs documentaires, je lève la main ici, au cours des prochaines années.
Félix Séguin, ben c'est passionnant. J'imagine qu'on va en apprendre plus au courant des prochains mois sur les confessions de Frédéric Silva. Je te souhaite une bonne journée et on se reparle dès demain.
À demain, ma chère. Au revoir.
Et c'est comme ça que se termine l'émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dès demain, 7h le matin, pour la dernière de la semaine. Ce n'est pas la dernière pour la saison estivale, mais juste pour la semaine. Je vous laisse entre les mains de mon collègue Alexandre Moranville-Ouellette et je vous dis à demain. Cube Radio.